RCF.
C'est la matinale RCF, il est 8h10, c'est l'heure du grand invité. Pendant toute cette période de carême, RCF a mis l'accent sur le thème de la sobriété. Comment adopter une vie plus sobre et quel sens donner à cette transition? Ce matin, pour évoquer entre autres ce thème de la sobriété, parfois subi, parfois choisi, nous recevons Alvaro Iniesta Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes espagnol, volontaire permanent chez ATD Quart Monde depuis plus de 15 ans. L'an passé, vous avez été élu par l'Assemblée Générale d'ATD Quart Monde, délégué général adjoint du mouvement international d'ATD Quart Monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler de tous ceux qui vivent dans la précarité et comment changer à la fois leur vie et puis notre regard sur eux. Mais d'abord, je voudrais commencer avec un mot. Demain, aux Invalides, la nation rendra hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Depuis vendredi, chacun loue son courage. Je rappelle que cet officier a pris la place d'une otage et en a perdu la vie. Courage, c'est un mot qui appartient aussi au vocabulaire d'ATD Quart Monde. Alors, qu'est-ce qu'il évoque pour vous?
Bon, la première histoire qui me vient dans la tête quand je pense au mot courage, c'est à ce groupe de KLC d'ATD Quart Monde en Pologne, où des personnes qui vivaient en situation de rue et chercher à se protéger dans la gare, dans la gare centrale de la ville. Et puis la direction de la gare, mais aussi les gardes de sécurité, cherchaient à les chasser pour pas embêter les personnes qui utilisaient les services de la gare. Et une femme de ménage de la gare a pris parti pour ces groupes de personnes qui étaient, voilà, dans des situations de dénuement et qui a confronté la direction, qui a confronté les gardes de sécurité pour protéger ces gens. Et puis ils se sont mis ensemble, ils ont réussi à dépasser les frontières sociales et ils se sont mis ensemble pour se donner du courage justement. Et il y a le courage de cette femme de ménage qui a osé prendre parti de ces hommes qui embêtaient tout le monde. Il y a le courage de ces hommes à la rue qui ont osé faire confiance à cette femme de ménage. Et la capacité d'avoir dépassé ses peurs, de s'avoir mis ensemble, ça a permis, voilà, par la suite, que ces groupes se constituent pour se soutenir mutuellement, pour chercher à manger, pour chercher à se garder chaud, et puis pour gagner une reconnaissance, pour avoir le courage d'aller à la rencontre d'autres dans la société et dire ça, partager sa pensée, sa réflexion, essayer de rejoindre d'autres pour rester attentif aux plus pauvres.
Le courage, c'est d'abord une démarche individuelle, mais qui s'inscrit dans un mouvement collectif.
Oui, je pense que c'est individuel, mais c'est vrai que les collectifs te permet aussi des pas que tout seul, des fois, tu ferais pas. Ou te permet de rester dans une confiance, dans une durée. Et ça, c'est très important quand notre vie est frappée par la misère depuis des générations.
Alvaro Iniesta Pérez, vous êtes volontaire permanent chez ATD Quart Monde. Cela veut dire que vous avez choisi de vivre aux côtés des plus pauvres avec votre famille. Alors, comment expliquer ce choix et qu'est-ce qu'il implique?
Pour expliquer ces choix, je dois venir quelques années en arrière, en 99, quand j'ai connu le mouvement ATD Quart Monde à l'époque, et ces choix du volontariat comme un choix de vie, des projets de vie, et pour rejoindre les populations les plus pauvres n'importe où dans le monde. Mais j'ai commencé mon engagement, donc avec ma femme Marina, dans une bidonville dans le sud de Madrid. Et c'était une bidonville très isolée, très loin de la ville, où des familles très pauvres y habitaient. Et la rencontre avec ces familles-là, isolées, notamment avec une maman qui partageait avec nous les rêves qu'elle avait pour ses enfants, ça m'a fait me rendre compte combien cette femme, c'était comme ma mère. C'était un égal à ma famille, à ma mère. C'était les mêmes rêves pour ses enfants que ma mère pouvait avoir pour moi, ma sœur. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas bâtir ma vie à côté de ça, en tournant le dos à cette réalité. Depuis toujours, j'avais grandi dans une paroisse, dans mon quartier, et j'avais appris et à travers les rencontres qu'on avait faites comment le monde était injuste. Et je supportais pas cette injustice. Mais la rencontre avec ces femmes m'a montré que si je voulais vraiment m'engager pour bâtir un monde plus juste, il fallait que je chemine avec cette femme, avec ces femmes qu'il y en a partout et ces familles, pour apprendre avec elle à bâtir des sociétés plus justes.
Alors, on peut comprendre cette démarche personnelle ou cette démarche de couple, mais les enfants?
Les enfants sont venus après. Et à l'époque, on n'était pas mariés. Et puis, notre première fille, elle est née à Liévin, dans le nord de la France, au Pas-de-Calais, dans une cité HLM très pauvre qu'on avait choisi de nous installer pour partager le quotidien avec les gens et bâtir avec eux, à partir de ce qu'on apprenait de ce quotidien avec eux, des projets qui fassent sens. Et notre fille et puis nos enfants après sont nés à fur et à mesure dans les différents lieux où on a été engagés et ils s'apprennent à cheminer avec nous dans ces choix de vie qu'on a fait.
Alvaro Iniesta Pérez, la pauvreté, ça peut être un choix volontaire?
La pauvreté, oui, ça peut être un choix volontaire, mais pas l'extrême pauvreté. Et à TD Carmont, nous, on parle d'extrême pauvreté. D'ailleurs, le mot sobriété, quand je commençais à me préparer pour cette journée, je me disais, mais le mot sobriété, quand on vient d'Espagne, ça fait penser aussi à l'austérité. Et l'austérité, dans l'Europe d'aujourd'hui, fait écho plutôt à des nouvelles comme celle des Royaumes-Unis, où l'espérance de vie baisse depuis plusieurs années, et pas juste à cause de la pauvreté, mais aussi à cause des coûts budgétaires. Mais je pense encore à une famille à Madrid. Et depuis des années, elle n'a pas de logement. Et puis les logements sociaux en Espagne sont rares. Il n'y a pas assez d'investissement. Et c'est une famille qui a dû squatter pour avoir un lieu où habiter et pas rester à la rue avec ses enfants. Le fait d'avoir squatté a fait que la maman aujourd'hui a un procès. Et dans ce procès, on veut le faire payer 2 euros par jour pendant 90 jours. Mais elle n'a pas d'argent parce que, à cause du fait qu'elle n'a pas de logement, elle n'a pas pu avoir en règle sa domiciliation. Donc, on le fait payer 45 jours d'arrêt domiciliaire. Mais comme elle n'a pas de maison parce qu'on l'a expulsée de la maison, on veut la mettre en prison. Alors, c'est cet cheminement, ça ne se choisit pas. On ne choisit pas cette extrême précarité où finalement notre vie est à la merci des autres.
La pauvreté, vous avez aussi été au Guatemala. Est-ce qu'il y a une spécificité de la pauvreté en Europe ou de la grande pauvreté en Europe?
Il y a des spécificités comme des services sociaux qui sont plus développés, mais il y a quelque chose qui se rassemble partout où j'ai été, j'ai pu rencontrer des gens très pauvres, c'est les sentiments de honte qui est lié au fait de vivre dans la misère. Il y a la honte, il y a les poids de la culpabilité et l'enfermement. Il y avait une personne du quartier où j'ai habité en France, dans le nord de la France, qui disait vivre dans la pauvreté, c'est comme voir un tram passer devant nous et c'est la vie et on n'arrive jamais à monter dedans. Et le fait que ta vie t'appartient, c'est comme si ta vie ne t'appartenait pas. Et puis, cette honte qui t'enferme, qui t'empêche vraiment d'aller vers des autres, de rencontrer les gens en égalité, c'est partout pareil.
Alvaro Iniesta Pérez, vous avez habité avec les plus pauvres, vous avez aussi travaillé avec les plus pauvres. L'expérience du travail a été importante, très dure. Qu'est-ce que vous en avez appris?
Quand on habitait dans les Pas-de-Calais, on a voulu aussi s'inscrire dans la vie quotidienne des gens par le travail. Parce que ça te permet de comprendre, ça te permet d'aller vivre dans ta peau, les conditions de travail. Mon expérience, c'était dans les travaux précaires intérimaires. Tu pouvais avoir une mission pour 2 heures pour décharger un camion. Tu pouvais travailler à la chaîne ou faire des nettoyages dans des usines. À la fin de la journée, on te disait que le lendemain, tu ne travaillais pas. C'est des conditions de travail très, très dures. Et les gens les plus abîmés ne restaient pas. Donc ça, c'était l'expérience de travail en France. Mais fort de cette expérience, quand on est allé au Guatemala, on a voulu rejoindre aussi l'envie des familles qui ont côtoyé pour sortir d'un modèle de travail qui humilie les gens, qui empêche les plus faibles d'apporter de la richesse avec les autres, de se mêler avec d'autres, bâtir des projets économiques. Et on a créé un atelier de création artisanale avec des matériels recyclés, des papiers, justement partant de cette envie des gens de sortir de l'humiliation, de sortir de ce jugement que les plus pauvres ne peuvent pas apporter à la société, même, et non plus de la richesse.
C'est la vocation première d'ATD, de dire que les personnes en précarité ont quelque chose à apporter à la société.
Oui, absolument. C'est dire qu'on ne peut pas bâtir une société sans exclusion si on ne la bâtit pas avec les gens qui la subissent. Ça serait comme parler de l'handicap ou des droits des femmes sans parler avec des personnes handicapées ou des femmes. Ça n'a pas de sens. Et en fait, dans mon expérience, je vois pas seulement une connaissance, mais une expérience dont on a besoin pour sortir des mécanismes qui provoquent l'exclusion et qui provoquent la misère et que ça dure.
Je l'ai dit, je voulais vous faire parler de cet engouement pour la sobriété aujourd'hui dans notre société de consommation. Les gens veulent être un peu plus sobres. On a choisi ce thème aussi pour ce temps de carême sur RCF. Comment on perçoit ce désir de la société quand on vit aux côtés des plus pauvres ?
Je pense que c'est un choix qui mérite d'être fait, mais si on le fait pour être mieux en capacité de rejoindre des populations les plus pauvres. Si on le fait encore une fois pour créer une différence, et ça va pas changer la réalité des familles les plus exclues. Et pour nous, à TD Carmonde, on fait ces choix de la sobriété, mais c'est comme une réponse solidaire pour pouvoir rejoindre une population et faire de cette rencontre avec cette population une chance des changements pour toute la société.
Renoncer en quelque sorte à la surconsommation, au bien, à l'accumulation, ça ne doit pas être d'abord pour soi, mais d'abord pour rentrer en lien, en relation avec les plus pauvres. Sinon, ça n'a pas de sens pour vous ?
Pour moi, ça a des sens de s'engager pour que l'insupportable de la misère s'arrête. Après, c'est déjà bien de commencer à consommer moins, à faire plus attention à la nature,
Mais ça vous paraît un peu dérisoire ?
Non, c'est pas dérisoire, mais c'est pas suffisant. Si ça vient pas lié aussi à un désir que les situations les plus dures pour les plus pauvres s'arrêtent.
Comment on fait si on veut commencer pour rejoindre les plus pauvres ?
Je pense que partout où on est, on peut faire attention à ce qu'on met de côté. Souvent, quand je pense, et ça j'ai pensé bien plus tard, quand je pense à mon expérience à l'école, je me rends compte de quelques enfants, quelques collègues de l'école qui venaient des familles très pauvres. Mais on ne les nommait pas comme ça. C'était les gens qui nous embêtaient, ou des fois, ceux qui sentaient mal. Et du coup, depuis tout petit, on fait l'expérience de mettre des gens de côté et avancer. Donc pour moi, c'est un changement de mentalité, un changement de culture aussi, de se dire on n'accepte pas que d'autres vivent des situations que je ne supporterai pas pour moi. Et ça, on peut le faire à l'école, on peut le faire au travail, on peut le faire dans nos choix politiques, dans nos choix de consommation. C'est partout qu'on peut faire des choix qui font la différence.
Alvaro Iniesta Pérez, c'est Antoine Bélier qui va poser la dernière question de cet entretien.
Bonjour Alvaro Iniesta Pérez.
Bonjour.
Le 14 février dernier, on se souvenait des 30 ans de la mort de Joseph Wrzesinski, le fondateur d'ATD Carmonde. Alors de quelle manière a-t-il profondément renouvelé la manière d'aborder la question de la pauvreté ?
De plusieurs façons. Et c'est les premières à avoir fait les liens entre pauvreté et droits de l'homme. Et parler de cette misère comme une violation des droits de l'homme change complètement la façon d'aborder la question de la pauvreté, non plus comme une manque, une culpabilité liée aux personnes qui sont dans la pauvreté, mais comme une question des droits. Mais en plus, pour moi, le père Joseph a cette capacité de nous montrer, de nous pousser pour nous dire les plus pauvres, c'est les gens autour de qui on peut se retrouver, on peut se rencontrer, n'importe nos croyances religieuses, n'importe nos croyances politiques, nos philosophies de vie. C'est un point de rencontre pour renouveler complètement notre façon de bâtir la société.
Et depuis l'action du père Brzezinski, vous pensez justement que la cause de la pauvreté a véritablement avancé?
Je pense qu'en France, notamment, il y a des avancées importantes avec des lois comme le droit minimum d'insertion et comme la couverture maladie universelle ou les droits au logement opposable. Il y a des lois qui ont changé, mais ce qui importe le plus, probablement, c'est la mobilisation citoyenne. Donc, il faut continuer. Il y a des avancées, mais c'est pas suffisant.
Merci beaucoup Alvaro Iniesta Pérez, merci d'avoir témoigné de votre engagement au micro de la matinale. Antoine Bélier, une émission importante à 9h.
Oui, il y a 22 ans, jour pour jour, 7 moines du monastère du Tibrin en Algérie étaient enlevés avant d'être retrouvés morts 2 mois plus tard, alors que leur prochaine béatification a été annoncée, alors que nous nous apprêtons en cette semaine sainte à suivre Jésus dans sa passion. Nous réfléchirons à l'héritage spirituel de ces hommes de foi avec mes 3 invités, Christophe Hénin, qu'on connaît bien sur RCF.
Qui
est spécialiste de la pensée des moines de Tibérine, et puis les pères Christian Salençon et Jean-Marie Lassos. Tous deux ont écrit bien sûr sur les moines de Tibérine, notamment le père Christian Salençon sur Christian de Chergé.